Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans À votre avis, votre émission interactive sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. L'émission de ce soir est consacrée à la situation des aveugles en Afrique et la question que nous vous posons est celle de savoir ce que vous pensez de la situation des aveugles dans votre pays. Il y avait 36 millions de personnes aveugles dans le monde en 2015, selon une étude publiée jeudi dernier dans la revue britannique The Lancet Global Health et qui prévoit que ce nombre devrait tripler d'ici 2050 du fait de la croissance démographique et du vieillissement de la population. Cette augmentation pourrait toutefois être freinée à condition d'investir davantage dans le développement de nouveaux traitements. Vous pouvez réagir dans cette émission en appelant directement au 001-202-205-26-33. Vous pouvez également partager votre point de vue sur la page Facebook de VO Afrique. Pour nous accompagner dans cette émission, nous aurons depuis Yaoundé au Cameroun, Coco Bertin, il est aveugle et puis président du Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Coco Bertin, bonsoir.
Bonsoir John et bonsoir à tous les auditeurs de VOA.
Merci beaucoup, hein. on se doutait qu'on vous aura ce soir. Merci pour votre disponibilité. Alors on va commencer, Coco Bertin. À quoi ressemble le quotidien d'un aveugle?
Disons que au Cameroun, on peut décrire le quotidien d'un aveugle de plusieurs manières. Il y a des personnes qui perdent récemment la vue et qui perdent totalement espoir, qui ne croient pas qu'ils peuvent encore être utiles à la société. Cette catégorie d'aveugles passe généralement du temps à la maison, parfois sous la sous-protection des familles qui pensent que du fait de la cécité, on ne doit rien leur confier, on ne peut leur donner que à manger. Il y a également dans cette catégorie ceux qui choisissent la mendicité pour s'en sortir. C'est ainsi qu'on rencontre dans les grandes villes au Cameroun, à la recherche d'une survie, plusieurs personnes déficientes visuelles qui s'adonnent à la mendicité. On les trouvera devant des pharmacies, devant des magasins, devant des carrefours, se servant de la mendicité pour s'en sortir. Il y a une autre catégorie. C'est celle qui, s'inspirant de certains modèles que nous avons dans notre société, pense qu'ils peuvent aller à l'école, se former et être utiles à la société. Voilà un peu le tableau, n'est-ce pas, du type des personnes aveugles que nous pouvons trouver dans notre pays.
Alors, Coco Bertin, je rappelle que vous êtes un exemple au Cameroun, vous êtes une source de motivation pour beaucoup d'aveugles. Est-ce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez nous raconter un peu les circonstances dans lesquelles vous êtes devenu aveugle et comment vous avez pris ça, comment vous vivez et comment vous réussissez même à vous organiser jusqu'à à créer un club comme celui que vous avez créé à Yaoundé?
J'ai perdu moi-même la vue à l'âge de 15 ans. Quand j'étais plus jeune, j'avais quelques difficultés de la vue. J'essayais d'aller à l'école, mais j'avais du mal à voir au tableau. Donc, aller à l'école n'était pas facile pour moi, mais j'avais vraiment envie d'y aller. Et en tant que malvoyant, j'y allais et je me servais de mes camarades de banc pour connaître ce qui est au tableau. C'est ainsi que j'ai passé mon cycle primaire. Et en 1981, après avoir violemment senti mal aux yeux pendant 3 jours, je me suis levé un dimanche matin, je ne voyais plus rien. Et je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai essayé de glisser la main sur le visage et de craquer les yeux, je ne voyais plus rien. Et c'est ainsi que j'ai totalement perdu la vue. Et quand j'ai réalisé que je devais désormais faire partie du monde de ce qu'on appelle aveugle, c'était très dur. À 15 ans, pour moi, c'était très dur d'accepter la cécité. J'ai voulu me donner la mort, mais je ne savais trop comment procéder. Je n'avais jamais entendu parler d'une personne aveugle de mon âge. J'avais entendu parler de personnes âgées qui perdaient la vue du fait de leur âge, ce qui rendait ma situation plus difficile encore. Je me suis finalement résigné, je vivais à la maison et j'avais comme bon compagnon un poste radio. Et c'est grâce à cette radio que j'ai écouté un jour l'intervention d'un non-voyant qui était reçu à une émission qui parlait de son expérience. Et je me suis rendu compte que les aveugles pouvaient encore aller à l'école. Je suis allé vers mes parents qui ont fait le nécessaire pour que je sois admis à l'Institut de réhabilitation pour aveugles de Boya. Et je signale en passant que c'est l'unique école étatique de formation de personnes non-voyantes au Cameroun. Je suis donc allé dans cette école et j'ai été frappé de voir que je n'étais pas le seul aveugle du monde entier, ce qui m'a consolé. Mais j'étais presque le plus jeune de ma promotion et je me demandais souvent est-ce que ma place était dans une telle école. Et je crois que cela a finalement constitué pour moi un défi. Je me suis mis au travail, j'ai travaillé dur et à la fin de ma promotion, par exemple, promotion qui a duré 2 ans, j'étais le meilleur de ma promotion en braille. Le braille qui est le système d'écriture et de lecture des personnes non-voyantes. Et après ma formation, ayant fait la connaissance d'un certain Martin Luther, qui est devenu mon meilleur ami dans cette école, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour créer une structure qui devait dans un premier temps nous aider à mettre en pratique les connaissances reçues dans cette école et dans un deuxième temps nous permettre de venir en aide à d'autres personnes déficientes visuelles. Nous avons donc créé en 1986, avec les conseils de feu le philosophe René Philombe, ce qui s'appelait à l'époque Kojari, coopérative des jeunes aveugles réhabilités de Yaoundé. Et en 1988, lorsque nous avons voulu donner une personnalité juridique à notre initiative, nous sommes aperçus que le thème coopérative ne correspondait pas à nos aspirations. Nous avons donc décidé de créer le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Du Cameroun parce que
voilà, avec le conseil d'un... Voilà, Coco Bertin, vous gardez la suite de l'histoire. Le temps pour nous de prendre quelques auditeurs. J'espérais qu'il y a Anna qui nous écoute aujourd'hui et qui pourrait être inspirée par votre histoire. On va prendre Théodoum Osana Kil. Bonsoir.
Oui, bonsoir Véa et bonsoir à tous les auditeurs. Je vous appelle depuis Bouzoto au Tchad.
Voilà, votre intervention, votre réaction.
Bon, comme j'ai dit dans mon commentaire... des handicapés visuels ont droit à une histoire de l'épanouissement. Beaucoup de personnes considèrent aussi aujourd'hui les personnes, les aveugles comme des mendiants. Mais moi, je dis que c'est vraiment faux. Par exemple, ici au Tchad, dans mon pays, on a des handicapés visuels capables. On a même un aveugle qui est actuellement député à l'Assemblée nationale. Il y a des aveugles qui sont écrivains, il y a des aveugles aussi des informaticiens. Donc ces personnes méritent juste d'être encadrées, et s'ils sont bien encadrés, peuvent être vraiment utiles pour notre société. Alors j'interpelle la conscience de tout le monde. Les personnes ont besoin de nos soutiens, et j'interpelle aussi les États à vraiment mettre qu'ils investissent pour ces besoins. Et quand on investit pour des personnes aveugles, ces derniers seront vraiment valables et utiles pour nos sociétés. Alors, il suffit juste d'avoir un programme bien précis, il suffit juste d'avoir des structures, des cadres pour maintenant canaliser ces personnes. Ils seront vraiment valables pour nos sociétés africaines.
Voilà, merci beaucoup, Osana. On va prendre également Georges Ali Sanik. Bonsoir.
Oui, bonsoir la VOA.
Alors,
les auditeurs.
Vous nous dites sur Facebook que vous mettez les aveugles en deux catégories, les aveugles intellectuels qui sont peu nombreux et puis les mendiants abandonnés à leur triste sort.
Oui, parlant de la situation des aveugles au Tchad, j'aurais, n'est-ce pas, voulu mieux écrire sur votre page Facebook, beaucoup même, mais le temps ne m'était pas vraiment bien puisque j'étais un peu occupé.
Voilà, allez-y donc maintenant.
Alors, vu ce thème du jour, je suis très intéressé parce que les aveugles au théâtre, comme je l'ai mentionné, il y a deux catégories, les intellectuels, qui sont d'ailleurs moins nombreux, comme l'a souligné, n'est-ce pas, mon compatriote qui vient juste de passer. Et voilà, on rencontre une catégorie qui est celle-là, qu'on voit, n'est-ce pas, même au Parlement, la population se fait représenter par une personne aveugle.
Voilà.
La personne de...
En tout cas, il y a un député qui est aveugle au Tchad. C'est ce que je lis dans vos commentaires.
Justement.
Alors.
Justement, un député aveugle. Et celui qui a vraiment du potentiel.
Voilà.
Et non seulement ça, même à la fac, dans le département auquel j'étudie, on a un aveugle ici avec nous sommes bien, on voit bien, malgré qu'il est aveugle, il se défend bien.
Voilà.
Un certain osé.
Voilà, merci.
Et vous voyez.
Désolé, merci. Oui, terminez votre phrase, Georges Ali.
Ok. Vu ce potentiel qu'ils ont en eux, alors j'aimerais que le gouvernement, n'est-ce pas, fasse quelque chose de bien pour ceux-là, parce qu'ils ne sont pas simplement des personnes inactives, mais c'est simplement la vie qui leur manque. Sinon, ils ont quand même du potentiel en eux, donc j'exhorte vraiment le gouvernement d'œuvrer en leur faveur.
Voilà, merci. Merci pour votre réaction. C'est justement ce que Coco Bertin essaie de faire au Cameroun. Alors, Coco Bertin, vous parliez de votre club que vous avez mis sur pied, le club des jeunes réhabilités, le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun.
Tout à fait. Donc, en 1988, nous avons créé le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, dont le but est de former et d'insérer dans le circuit socio-économique des personnes non-voyantes. Et ce club a été légalisé en 1990 et nous avons créé au sein de ce club une école primaire bilingue inclusive en 2004. Pourquoi ne pas signaler qu'en décembre 2003, ce club a été visité par l'épouse du chef de l'État, Madame Chantal Biya, qui est venue inaugurer un siège que nous avons construit pour les personnes non-voyantes au Cameroun. Et le club est passé en 2013 du statut d'association au statut d'ONG et en 2014, nous avons eu le statut consultatif de l'ECOSOC, le Conseil économique et social des Nations Unies. Donc voilà l'évolution du club des jeunes aveugles et réhabilités du Cameroun. Je voudrais signaler en passant que vendredi dernier, le 4 août, le club a soufflé sur sa 29e bougie.
En tout cas, avec quelques jours de retard, on vous souhaite joyeux anniversaire. Vous restez avec nous, Coco Bertin. On va prendre Brahima Doumbia au téléphone. Brahima, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous.
Vous nous appelez, j'imagine, du Cameroun.
Je vous appelle depuis Sikasso au Mali.
Au Mali, plutôt. Alors, vous dites que la situation des aveugles est très critique. Ils sont des dizaines chaque jour au bord des routes pour demander, en fait, pour faire le mendiant.
Effectivement, comme il a dit dans le commentaire, la situation, si vous voulez, des non-voyants ou des malvoyants, surtout comparable, si vous voulez, à la mendicité. Parce que vu aujourd'hui, très peu de ces gens-là ont un emploi où ils peuvent gagner, comme les filles gagnent dans les commentaires, un emploi où gagner leur pain. Ils sont généralement au bord des routes ou dans les marchés en demandant aux gens de leur donner quelque chose après pour qu'ils puissent manger. Ils se mettent en tête qu'ils ne peuvent absolument rien faire d'autre, même la culture ou aller travailler aussi, même dans la boulangerie ou autre. Je pense que c'est une situation très critique, surtout au Mali. Très peu de gens, comme je l'ai bien dit, travaillent dans l'administration ou dans les ONG. Il faut d'abord que on civilise ces gens-là, ensuite on les aide.
Voilà.
Les moyens, ou les former, si vous voulez, pour qu'ils puissent être l'exemple de ce pays. À travers, aujourd'hui aussi, il faut le souligner, Amadou et Mariam, qui sont aujourd'hui des renommés dans la musique malienne. Ce sont des gens qui ont pris le courage en main, qui ne sont pas seulement soumis du fait de cette maladie, si vous voulez. Ils se sont mis en tête qu'ils peuvent contribuer à l'essor de ce pays, à être des exemples à travers ces gens. Je pense que tous devraient se servir de cela. Et même, si vous voulez, et même l'État aussi, ça il faut le dire, l'État doit contribuer surtout
voilà.
À former ces gens-là.
Brahima Doumbia. Brahima Doumbia, vous restez avec nous. Je vais prendre un autre auditeur au téléphone. Il s'agit de Laetitia Zongo. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, vous nous appelez d'Angola.
Oui, oui, je suis en Angola, Luanda.
Quelle est la situation des aveugles en Angola où vous vivez?
Bon, la situation est toujours critique comme partout en Afrique. Vous savez que les aveugles ne sont pas vraiment déjà pris en compte par les services sociaux. Ils sont abandonnés, ils font la mendicité. Mais avant tout cela, je pourrais un peu, parler un peu plus sur les conditions ou qu'est-ce qui a fait que nous nous retrouvons surtout en Afrique avec beaucoup d'aveugles.
Tout à fait, allez-y.
Nous le savons qu'il y a l'onchocercose qu'on appelle communément le ver de Guinée qui provoque surtout les maladies des yeux. Mais ici chez nous, le ver de Guinée n'existe pas vraiment 10%. Mais ce qui fait souvent que dans la jeunesse, par exemple, pour un enfant qui étudie dans une salle où il n'y a pas assez de lumière avec le temps, ça peut causer aussi ce problème d'aveuglité. Et pire encore, il y a l'automédication. Vous savez, à l'époque, il y avait une maladie qu'on appelait Apollo. Apollo, c'est ça qui faisait gonfler les yeux des enfants, des vieux. Vous touchez à quelque chose, ça vous pique les yeux. Alors, les gens faisaient l'automédication parce que c'est présenté devant un médecin, il faut consulter le FDP, c'est ce que nous appelons ici consulte, donc qu'on doit vous consulter, vous payez plus cher, on vous donne une ordonnance, vous allez à la pharmacie, c'est plus cher. Alors les gens mettaient même du miel dans les yeux. Mmh. Ils utilisaient des herbes qu'eux-mêmes connaissent, mais qui, à la longue des années, entraînent ce problème d'aveuglité.
Voilà.
En bref, ici chez nous, il faut la manicité. Et ils se promènent avec des enfants dans les croisements des avenues pour commander.
Voilà. Merci beaucoup, Laetitia Zongo. Coco Bertin, je reviens vers vous. On a suivi les auditeurs tout à l'heure qui parlent beaucoup de mendicité. Comment éviter aux aveugles de se retrouver dans une telle situation et plutôt les encourager à travailler, à s'occuper et à gagner leur vie comme vous le faites, comme le ferait tout un chacun?
Je pense que il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire pour amener ces aveugles à comprendre que on peut gagner sa vie autrement que par la mendicité. Je sais que ce n'est pas facile. Je vous prendrai l'exemple d'un aveugle que nous avons pris, que nous avons essayé de former. Et pendant cette période de formation, il gagnait beaucoup moins que ce qu'il avait dans la rue et il nous a dit qu'il préférait rentrer dans la rue parce que par jour, il arrivait à rassembler 3000 francs, 4000 francs et je vous assure qu'il a préféré rentrer dans la rue, ce qui est regrettable. C'est pour dire que c'est une tâche qui n'est pas facile, mais nous ne devons pas nous décourager. Je crois qu'il faut continuer à faire un travail de sensibilisation, encourager ces aveugles, créer des structures de formation et donner la possibilité à ces aveugles d'aller à la formation, parce qu'il y a des aveugles qui sont intéressés, qui voudraient bien se former, qui n'ont pas les moyens de se déplacer du logis jusqu'au lieu de formation. Et je crois que ça devait être une grande préoccupation, n'est-ce pas, pour nos États. De même que l'école publique est gratuite, la formation devrait être gratuite pour toute personne handicapée et notamment pour les personnes non-voyantes. Mais on constate que pour qu'une personne non-voyante accède à une formation, d'abord c'est les structures privées qui vont offrir ces formations. Les structures privées ont des charges, ce qui n'est pas facile, dont l'État, le gouvernement devrait se préoccuper et prendre en compte, n'est-ce pas, les personnes handicapées lorsque il élabore les politiques. Il faut que nous évoluions véritablement vers ce qu'on appelle une société inclusive.
Voilà. Vous parlez de prise en charge. On en reparle tout à l'heure. On va aller au Mali pour parler à Mamadou Koné qui évoque également la mendicité. Mamadou Koné, bonsoir.
Bonsoir, ça va?
Oui, ça va très bien. Et vous-même?
Oui.
Voilà, votre avis donc sur la situation des aveugles en Afrique, vous dites qu'au Mali c'est devenu presque un métier, la mendicité.
Effectivement. Alors, je salue d'abord maintenant à tous les auditeurs et les auditrices de VOA Afrique. Avec le désengagement de l'autorité malienne, alors, on peut dire que cette situation devient de plus en plus un métier ou bien un commerce C'est-à-dire, parce qu'il y a des gens maintenant qui essaient maintenant de profiter maintenant à cette situation, maintenant pour faire essayer d'embarquer avec les autres. Comme par exemple, ils prennent des gens dans la journée, ils prennent maintenant 200 000 francs dans la journée. Donc comment à cela maintenant on peut comprendre? Même si, bon, parce que à notre façon de comprendre, bon, on sait que peut-être ça c'est quelque chose maintenant qui vient peut-être de façon imprévue ou bien dessin plutôt. Donc maintenant quand cette situation vient, bon, moi je pense qu'ils devraient comprendre dans l'immédiat, bon, quand ils sont dans cette situation comme ça, donc ils devraient comprendre ou bien aillent maintenant le courage maintenant pour accepter maintenant de garder maintenant dans leur maison. Mais tel n'est pas le cas, surtout maintenant à Bamako. Bon, je vais vous donner maintenant les rendez-vous auprès de notre Assemblée nationale. Même actuellement, quand tu vas là-bas, tu verras qu'il y a des gens maintenant qui essaient maintenant de profiter de cette façon maintenant pour avoir maintenant l'argent. Bon, moi,
voilà.
Je pense que, bon, oui.
Merci. Merci pour votre contribution. On va prendre Dieudonné Djandiro. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Comment vous allez?
Je vais très bien. Vous nous appelez du Bénin. Quelle est la situation là-bas?
Bon, ici, là, c'est clair. Vraiment, les aveugles n'ont aucune place ici. Hein. Et je demanderai au chef d'État de créer un centre qui peut aider ces aveugles parce que ça ne va pas du tout. Et les dirigeants, ceux qui ont des personnes de bonne volonté, d'aider ces aveugles pour qu'ils puissent aller de l'avant. Donc,
voilà.
Il n'y a aucune place. Si nous avons compté le nombre d'organisations qui s'occupent de ces aveugles, on ne peut même pas trouver toi. C'est une manière.
Voilà.
Difficile.
Merci beaucoup, Dieudonné. On va prendre Jean-Claude Diendré Beogo. Bonsoir.
Ouais. Bonsoir. Vous allez bien?
Oui, je vais très bien. En quelques secondes, votre avis sur la situation des aveugles au Burkina?
Bon, moi, je trouve que la situation des aveugles au Burkina est de plus en plus prise en charge par les associations caritatives ainsi que l'État burkinabé en les employant des manières d'éducation,
voilà.
À les soutenir dans leurs activités. Et cette année même, l'État a essayé de voir pour ce genre de personnes pour plus s'intégrer dans la fonction publique.
Voilà, merci beaucoup. On va finir par Coco Bertin. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce qui se passe en Occident, où vous avez souvent été, et qu'est-ce que l'État peut faire pour apporter un plus fort soutien aux aveugles?
Disons que on peut noter que en Occident, les personnes handicapées sont prises.
Allez-y, Coco Bertin, en quelques secondes, on tire à la fin de cette émission. Voilà.
Les personnes handicapées rendent accessible l'environnement, que ce soit dans les rues, que ce soit au niveau des bâtiments. Ça permet aux personnes d'accéder à la formation. Et je crois que ça, c'est très important. Et je crois aussi qu'en Afrique, il y a un travail à faire, c'est le choc.
Voilà. Malheureusement, Coco Bertin, on va arrêter là. La communication nous lâche à la fin. Brahima Doumbia, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait de plus en plus d'aveugles chez nous en Afrique? En quelques secondes.
Vu la démographie, je pense qu'il y a
moins d'aveugles, oui. Allez-y.
Vu la démographie, vu aujourd'hui cet enjeu, je pense qu'il est urgent quand même pour le chef d'État de s'imprégner de cette situation et de sensibiliser et d'aider, de donner la possibilité d'assistance là.
Voilà. Merci. C'est avec ces propos qu'on met fin à cette émission de À votre avis, qui était mise en onde par Georges Léonard Sagno, qu'assistait Fred. John Lyndon vous l'a présenté. Je vous laisse en compagnie de Abdourahmane Dia pour les informations. Restez à l'écoute de VO Afrique. Bonsoir.